Tata boom. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tatapoum, épisode 49. Il faut vous dire un truc, on enregistre cette émission le dimanche 7 juillet 2024. Il est 14h et nous sommes dans les studios de Cause Commune. On est le jour du second tour des élections législatives en France et on a carrément les miquettes. Il y a une semaine, on a tous été sidérés par la puissance de la vague brune, presque 11 millions de personnes qui ont voté pour un parti d'extrême droite. Alors ce soir, on a peur d'apprendre dans quelques heures que les fachos sont majoritaires en France, qu'ils vont former un gouvernement. La peur est bien plus grande qu'en 2022, quand Le Pen était au second tour face à Chirac, ou les fois suivantes, parce que tout ça n'est pas une première, en 2017 ou en 2022. Cette fois-ci, la menace devient de plus en plus réelle et nous assistons sidérés à la désagrégation sociale, politique et, osons le mot, morale de notre pays. Nous assistons depuis des années au triste spectacle d'un pays géré par des banquiers et des managers. Nous assistons à la droitisation des débats. Nous sommes confrontés à des polémiques dont on ne veut pas. Il nous faut discuter, entre autres, de conneries comme la laïcité, qui n'est de plus en plus qu'un faux nez d'un racisme décomplexé. Nous assistons effrayés à ce que peut faire l'extrême droite quand elle en a les moyens, que ce soit le gouvernement Netanyahou, Viktor Orban, le Hamas, Javier Milei. Le fascisme, c'est la guerre et le musellement des populations. Voilà, on a peur. Moi, j'ai peur. Alors ce soir, on va vous parler rock'n'roll, mais je ne suis pas sûr que le cœur y soit. Nous irons tout de même de Londres à Washington DC, en passant par Sydney, et nous atterrirons à Liège en espérant qu'on n'ait pas de bouchons, puisque ce soir on parle de Beige Banquet, de Echo Astral, de RMFC et du Prince à Harry. On va commencer par Beige Banquet qui sort un nouvel album, et c'est Mathieu qui nous a choisi un premier titre. That'll bring direct hit again. It's unequivocal, we're unoriginal. How did we end up in this place? Just see it for what it is. But it's warm and swirm in the swamp and wet with a bed of mean sweat. The stench of a warm sauna wraps round and consumes all. Parasitic energy, 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 parasitic energy. As the days on your escarpet, it's feeding time, it's feeding time. We'll stand round here for hours, I don't know what to do. Now bodies move through the room, their limbs and arms are traced by light. Function, movement, change, shook and dehydrated, breathe. Parasitic energy, 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 parasitic energy. Have I wondered why? Your filament turns to human shit in your mouth. It's not hard. It's not hard. Et ben voilà, ça c'était donc un premier extrait de Beige Banquet avec leur album qui vient de sortir, Ornamental Hermit, et c'est Mathieu qui nous en parle.
Oui, alors j'ai cru au départ que c'était un cadeau empoisonné qu'on me faisait, puisque Beige Banquet, c'est un groupe que j'avais découvert sur scène à l'international début 2022, et j'avais pas été convaincu du tout. En fait, faut se rappeler que à l'époque, ça m'avait évoqué les Talking Heads, qui font partie des pires groupes dans mes références. En fait, voilà. Donc c'est pas grave, je me suis dit, tant pis, c'est ma punition, tout ça, parce que j'ai pas assez voté à gauche ces dernières années, mais enfin, il n'y avait pas non plus de possibilité, j'avais oublié. Beige Banquette, c'est un groupe anglais de Londres, de post-punk, hein, qui existe depuis 2020 et qui, en fait, au départ, était le projet solo de celui qui est devenu le chanteur-guitariste et qui s'est entouré de quatre camarades. Et en fait, ce troisième album, puisque c'est un groupe qui est quand même assez productif, alors troisième album dont un live, il contient quand même quelques petites choses sympathiques, même si il conserve certaines scories de l'époque. Je reviens sur la référence aux Talking Heads. Il y a des fois, il y a certains passages où j'ai quand même mal aux fesses, mais ça c'est pas grave. Il n'empêche que globalement l'album il s'avère très énergique, plutôt varié. Et il marche sur des sillons qui sont déjà largement tracés. Alors je pense que Guillaume, il parlerait pas de sillons, il parlerait d'ornières. Mais c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes visions de la musique. Il n'empêche que tout cela, c'est suffisamment bien fait pour qu'on cherche pas à écouter l'album en quatrième vitesse ou à le passer à 1,25 ou 1,5 en se disant ah oui c'est plus speed, ça va être sympa. Non, on peut l'écouter à vitesse normale et même on peut le réécouter avec un intérêt qui est renouvelé puisqu'on redécouvre des choses à chaque fois. Et ça me donne envie de me pencher sur les épisodes précédents, y compris celle de l'album live, puisqu'il avait été enregistré à la même époque que le concert que j'avais pas apprécié. Et en fait, je me pose une question, est-ce que je m'étais trompé à l'époque ?
Non.
Ah, merci, ça me rassure. Arnaud.
Moi, je vais chercher la petite bête. J'ai eu du mal à écouter cet album. Et j'ai pas forcément envie de dire du mal des groupes à guitare pendant cette émission. Faut quand même qu'on garde à l'idée d'écouter encore du punk pendant longtemps. Donc, je vais pas être trop méchant. Mais j'ai quand même des choses à redire. Donc, c'est bien un groupe à guitare. Ça va vite. La base rythmique est très efficace. Et dans l'ensemble, je trouve ça quand même trop lisse, trop mécanique. Il y a quelque chose qui m'a agacé un peu tout l'album, c'est la voix robotique du chanteur, que je trouve assez vite inintéressante. Et en fait, c'est très bien fait, mais à mon sens, on est devant une orfèvrerie sans aspérité. Je retiens pas grand-chose de ce beau voyage en territoire post-punk. Pour moi, ça a été plutôt une traversée du désert. Ça m'a fait penser à un groupe. Battles, c'est pas le même style, mais c'est un groupe de math rock anglais qui a quelques années, qui avait des très bonnes prestations live, que j'ai toujours essayé d'aimer. Et j'ai jamais réussi à aimer parce que je trouvais ça toujours chiant. J'ai un peu eu cette sensation. L'album, j'ai écouté 2-3 fois. Et c'est le côté robotique et mécanique de l'album, des compos que je trouve pas très intéressante. Une remarque sur la tracklist aussi que je trouve assez bizarre, notamment sur l'avant-dernier morceau, c'est Condition Report, qui a tout d'un morceau instrumental pour me plaire, parce que ça ressemble plutôt à de la musique électronique. Ça monte, il y a une montée assez mécanique encore, mais il se passe pas grand chose. Moi j'ai attendu, ça fait pchit à la fin, un vrai pétard mouillé. Et puis c'est pas le dernier morceau, alors que ça aurait mérité à mon avis de l'être. Ça doit peut-être être le dernier morceau en live. Et il y a un dernier track qui arrive, qui ressemble un peu à tout le reste de l'album, qui a une position assez étrange. Bon, je chipote, hein, vous allez sûrement dire beaucoup plus de bien que moi, et j'ai pas forcément envie d'en dire beaucoup de mal. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Sûrement le réécouter plusieurs fois et j'y trouverai peut-être un peu plus d'intérêt plus tard.
Oh bah ouais, tu chipotes, parce que franchement, moi je trouve qu'ils ont ils savent où ils vont, c'est clair, c'est précis. Il y a une dimension un peu robot dans la voix, mais je trouve que ça donne quelque chose d'envoûtant, de prenant à écouter. Et puis il y a aussi cette guitare rythmique qui scande des riffs, un rythme effréné qui semble un peu singer les boucles de la musique électro. Et il y a une certaine virtuosité, hein, dans le musical. Les guitaristes sont vraiment super balèzes. et pourtant ça sonne pas prétentieux, quoi. Il y a pas un côté guitare héros, et cette maîtrise technique, je trouve que ça leur permet de faire des trucs assez compliqués, assez délicats, sans être trop arrogant avec leur guitare. Et je trouve qu'il y a une vraie élégance dans cette musique. Je trouve que, et puis il y a à la fois de l'élégance et puis il y a l'attitude, quoi. Je veux dire, cette voix, cette manière de tenir le chant, ça donne quelque chose d'un peu hautain, d'un peu branleur. Voilà, moi je trouve que ça donne un album magnifique et très classe. N'est-ce pas, Héloïse ?
Exactement, Pierre. Comme toi, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un petit bijou d'art punk qui, en dépit de cette étiquette, n'est pas si sombre que cela, bien au contraire, soutenu par des rythmes machiniques conçus comme des loops à l'image d'un sample de techno qui se répète sans fin mais en beaucoup plus musical. Beige Banquette combine prestation vocale robotique, comme tu l'as souligné, Arnaud, et que j'ai pour ma part beaucoup aimé, riff de guitare abrasif et texture industrielle pour créer un son frénétique et entraînant. Moi, ça m'a fait penser à du DAF, mais en version moderne. Il en résulte un album énergique, très instrumental, qui frôle parfois avec l'expérimental d'une richesse infinie. J'ai tout simplement trouvé ça beau.
Ben ouais. Cédric, même enthousiasme ?
Eh ben oui, moi j'étais déjà très convaincu et même pour te dire très fan de leur premier album Beta, qui était beaucoup plus lo-fi, fait avec très peu de moyens, quoi. Et je suis pas déçu depuis que Beige Banquette est devenu un groupe et enregistré en studio. On y retrouve à peu près la même veine assez sombre, une sorte de post-punk qui aurait allumé une lumière un peu tamisée. Et j'ai envie de dire que l'album gagne en maturité, qu'on est passé en gros de 1980 à 1981, ce qui est quand même un compliment, hein. C'est une sorte d'art de faire du neuf avec du vieux en s'appuyant sur une palette de références, dont notamment les excellents Talking Heads, évidemment. Et donc on retrouve pas mal de diversité sur cet album. Avec des titres très tendus, répétitifs, comme Parasitic Energy par exemple, ou d'autres plus cold comme Mind Lapse. Mais je trouve que c'est le mix des deux qui emporte, avec des sonorités intenses et mélodiques, voire dansantes comme sur Animals. Et ils sont tellement à l'aise d'ailleurs sur cet album qu'ils nous gratifient aussi d'un titre chiant limite jazz avec Substance par exemple. Et je suis d'accord avec Mathieu, en live, moi ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en gros la diversité elle est complètement écrasée par un rythme très rapide, quasiment oi, et la présence très masculine du bassiste, hein, qui occupe toute la scène. Mais à revoir après cet excellent album.
Et pour terminer, Guillaume.
Oui, moi j'ai bien aimé, c'est londonien, hein, qui possède cette particularité d'être à la fois d'une facture des plus classiques dans leur musique, au sens ils ne s'aventurent jamais très loin, en étant résolument conservateurs dans leur style, et dans le même temps, ils possèdent cette capacité à afficher toutes les nuances possibles du post-punk, art, dark, no wave, et on pourrait également faire des associations du côté du kraut ou de l'indus, et bien sûr la large place qui est faite à l'électro dans leur musique. Tout y passe et se mélange, ce qui a abouti à un album complexe et foisonnant qui m'a fait songer, mais je pense que chacun pourrait y trouver d'autres influences possibles, hein, tour à tour à Pylon pour les parties post-punk, mais aussi à Devo pour le côté un peu psychorock, ou plus près de nous à un groupe comme Liek pour leur aspect répétitif. Leur palette bigarrée impressionne et séduit tout autant au fil des titres. On apprécie cette dextérité à mélanger les genres. Cela est d'autant plus remarquable que la qualité d'interprétation est d'un excellent niveau, pas de faute de goût, tant au niveau technique ni dans la forme. Dans des compositions, tout est parfaitement balancé et entraînant. J'en suis étonné pour un groupe aussi jeune et sans véritable background. Une telle assurance laisse présager qu'il s'agit déjà d'un groupe à suivre, ce que je ne manquerai pas de faire.
Eh bien, nous allons écouter un deuxième et dernier extrait de Beige Banquette, et c'est Mathieu, tu nous as choisi Jordès. Judge a reason.
that genre, that. What do we do when it does completely come from the underground or so cheaply? Broken down to nothing but a pure commodity. The dust is done and broken bone, head on bitterly.
Allez, ça c'était Beige Banquet et on passe tout de suite à Echo Astral. Echo Astral qui sort un album qui s'appelle Pink Balloons et c'est Guillaume qui nous a choisi un premier extrait, Sick and Stones.
Yeah.
Et ben voilà, ça c'était un premier extrait de Echo Astral et c'est Guillaume qui nous en dit plus.
Ouais, Echo Astral est un quintet originaire de Washington DC, garçons et filles, certaines ou certains trans, ce qui n'est sans doute pas sans influence d'ailleurs sur la teneur de leur texte, dont on appréciera qu'il soit lisible sur leur Bandcamp. Après un EP en 2022, elles nous sortent leur premier album chez Top Shelf Records dans l'Oregon. Comme elles le disent dans leur présentation Bandcamp, Echo Astral mélange de la noise punk à de la no wave art rock et c'est en effet très juste et résume parfaitement le style de cet album qui échappe aux travers habituels des petites formations punk énervées et dans l'air du temps en élaborant des compositions réfléchies et de la sorte leur permettant assurément de se distinguer dans la riche scène actuelle néo-Riot Girls, hein, pour dire vite. L'attention toute particulière aux intros de chaque morceau est déjà un très bon signe de la qualité de leur démarche. Le ton juste et composite de leur morceau rajoute de la valeur à l'ensemble du disque. On est bien sur une base punk pour la plupart, mais tellement trituré par différents autres styles, qui iraient des slits à hall, hein, pour donner un peu un aperçu, que l'ensemble apporte beaucoup de personnalité à cet album riche et, je le répète et j'y insiste, intrépide dans sa capacité à se distinguer. Sticks and Stones, qu'on vient d'entendre, donne bien la teneur de l'album, de même que Woo Type Beat, que l'on entendra ensuite, créatif ou imaginatif, les morceaux s'enchaînent en fluctuant les tonalités et le rythme. C'est à la fois joyeux, plein d'énergie, et si l'on prête attention aux propos, constamment acerbes sur l'état de la jeunesse nord-américaine, il n'y a donc pas à s'y tromper, ce Pink Balloon est un véritable bon disque.
Mathieu, non, c'est Arnaud qui va nous parler de Echo Astral.
Bah ouais, je suis deuxième encore, j'ai l'impression d'être ronchon là. Vous écoutez, vous avez vraiment été dithyrambique et ça va être, je pense, le cas sur celui-là. Donc je vais encore faire chier et apporter quand même des nuances. Moi j'ai trouvé l'album vraiment protéiforme, je suis d'accord avec toi, hein, Guillaume, mais du coup assez difficile à écouter, ça pioche dans pas mal de styles. Il y a un marqueur quand même commun à tout l'album, c'est la voix que je trouve assez nasillarde de la chanteuse, qui oscille entre pop et punk, ça dépend des morceaux. Moi, ça m'a un peu cassé les pieds à la première écoute, parce que j'ai évolué quand même dans mon appréciation. Après, tu l'as dit, l'intérêt réside surtout dans les textes. En effet, ils sont disponibles sur Bandcamp. Je suis pas bilingue, mais j'ai essayé quand même de les traduire et je vous conseille d'essayer de le faire. C'est quand même très difficile, moi je trouve, de comprendre la portée de leur texte, même si on comprend le fil, hein, c'est contre le patriarcat, la société de consommation, bon, et tout ce qui s'ensuit, c'est très bien actuellement, mais c'est pas évident de comprendre les textes et c'est pas très grave. C'est pas évident non plus de comprendre leur musique. Elle est pas facile d'accès. On est un peu devant une œuvre d'art contemporain, je trouve. Ça interpelle, ça ressemble à pas grand chose. Il y a beaucoup de styles différents. Il y a quand même quelque chose qui est gênant. On a défoncé quelques groupes récemment là-dessus. Les plages de 30 secondes, donc il y a une petite minute tendance country, un texte avec des distorsions. Après, il y a un très joli morceau, Devora, tendance pop punk, que j'ai vraiment trouvé très intéressant. La base rythmique super, la guitare très entraînante. Et juste après, il y a un bruit de chasse d'eau qui dure 30 secondes. Et puis, on finit sur 8 minutes de pop punk, ça m'a limite fait penser à Radiohead, donc j'imagine que peut-être l'un d'entre vous va quand même trouver des choses à redire sur le dernier morceau. Mais qu'est-ce qu'il en reste derrière? Je trouve quand même un objet un peu formaté par rapport à ce qui peut se faire actuellement, notamment sur cette idée de vouloir faire des choses très différentes, un peu arty, avec quelques plages de très courtes et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et pourtant c'est assez cohérent à la deuxième, troisième, quatrième écoute, parce que je l'ai écouté plusieurs fois et donc je chipote, mais je pense que c'est un album qui se bonifie à l'écoute parce qu'il est très riche et pas évident d'avoir un avis assez tranché, je pense, dès la première écoute.
Non mais tata poum quoi, quelle puissance, mais quelle énergie, enfin vraiment du vrai punk de badass quoi. Alors j'aimais bien la définition de le quintet queercore, je trouvais que c'était ce que j'ai lu, c'était ça. Il y a Guillaume l'a dit, vraiment un héritage évident des Riot Girls, et pour moi il y a tout ce qu'on demande à un groupe, non, une conscience sociale et politique qui alimente des textes et la démarche du groupe, des grosses guitares, du bruit, beaucoup de bruit. Moi, je trouve qu'on n'arrive pas à savoir ce qui est le plus violent, si c'est leur musique ou leur discours politique, parce que ça balance des coups de Santiago dans tous les sens. Vous l'avez évoqué, des sujets qui semblent leur tenir à cœur, la transphobie, la lutte contre le patriarcat. Il y a aussi tout un truc sur le massacre des populations indigènes aux États-Unis, etc. Voilà, disons évidemment que les interludes folk ou ambiantes, c'est un peu saoulant, mais le reste, c'est vraiment une grenade dégoupillée que cet album, quoi. Et puis, alors, les ballons roses qui donnent leur titre à l'album et qui font la déco de la pochette, ça donne une indication vraiment trompeuse sur ce qu'on va entendre, parce que ce qu'on va entendre, c'est une grosse tuerie punk noise, et moi qui m'a beaucoup impressionné, beaucoup plu. Et alors, du coup, ça a l'air d'être quelque chose sur scène, quoi. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de voir ça sur scène, parce que ça fait très envie. Mathieu.
Oui, alors tu viens de dire quelque chose, je pense qu'on peut s'élever en faux, tu dis envie de donner des coups de Santiago. Les Santiago, c'est quand même country, c'est un truc de droite, donc okay. Faut arrêter avec ce truc quand même.
Et puis ton gauchisme va se nicher dans des endroits improbables hein, parfois.
Ah bah non, enfin faut pas exagérer quand même, enfin on mélange pas les torchons et les serviettes. Et Arnaud, tu viens de dire que Radiohead faisait du pop-punk. Et alors ça, j'en tombe de ma chaise aussi. Sinon, pour Echo Astral, en fait, moi c'est simple, je suis dans ma zone de confort. Que ce soit le chant, les guitares, les rythmes, le côté expérimental, parce que un morceau comme Somewhere at the Bottom of the River Between Enfant and Eastern World, c'est un truc Eastern Market. C'est le titre est complètement délirant. Le morceau, effectivement, il départ complètement du reste de l'album, mais rien que ça, c'est une provocation à mon sens, comme je les aime. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est entre, pour moi, c'est entre Riot Girl et expérimental, et moi, c'est un album, c'est ça qu'il est bon.
Cédric, même enthousiasme.
Voilà, comme je suis le dernier, je résume. Hein, donc un très bon album qui fait pas du tout dans la demi-mesure. Hein. Alors derrière leur tête un peu inoffensive quand même, quand on les voit sur leur clip, on voit des textes donc hyper engagés contre pas mal de choses, vous l'avez rappelé, notamment contre la résignation. La mièvrerie a pas du tout de place dans cet album, l'ironie est au cœur du propos constamment. Et sur l'album en tant que tel, on est dans une sorte de punk pop qui mélange les Priest et Fugazi pour rester à Washington. Je trouve qu'aussi dans la série des albums Riot Girls, qu'on prend souvent un peu dans la gueule ici, ce qui est l'intérêt de l'album, c'est la variété des titres dans leur construction et dans le rythme qu'ils proposent. On l'a souligné, il me semble, tous et toutes ici. Et par rapport, par exemple, à Lambrini Girls qu'on avait chroniqué, on voit que ici Echo Astral, ils visitent des territoires moins connus, quasiment balades parfois sur Make Me Young. Puis ça repart de plus belle sur des titres plus étirés, plus noise ou plus punk. Sans tomber dans le grand n'importe quoi quasi improvisé qu'on peut retrouver parfois dans ce type de groupe. Bref, je trouve ça calibré, joyeusement foutraque, salement intransigeant. Bref, par les temps qui courent, c'est assez vital.
Eh ben, on va donc écouter un deuxième extrait de Echo Astral. Guillaume nous a sélectionné Uwu Tip Beat. Tiny bit. Et ben voilà, c'était donc les excellents Echo Astral. On va faire un petit pas de côté puisque Héloïse souhaitait nous parler d'une compilation dans ce contexte politique un peu compliqué où des groupes s'engagent un peu autour du front des musiques indépendantes. Tu nous en dis deux mots, Héloïse ?
Absolument. Et bien, à l'orée d'un scrutin fatidique, celui des élections législatives, cela n'aura échappé à personne, la scène indé se mobilise face au risque de voir l'extrême droite prendre le pouvoir en France sous la forme d'un front des musiques indépendantes qui se donne pour objet de repolitiser les pratiques dans le secteur musical et les industries culturelles et créatives. À cet effet, une centaine de groupes, dont Syndrome 81, Astéréotypie, Astaford Mods, Maribel ou encore Frustration, que nous avions chroniqué dans Tatapoum, mais aussi MSS France, Fish Talk et bien d'autres, viennent de sortir En Lutte, une compilation antifasciste pour un monde meilleur, publiée en deux volumes à la veille des deux tours des législatives, d'abord le 26 juin puis le 5 juillet, en libre écoute sur le Bandcamp du Front des musiques indépendantes. Bref, on lâche rien et nos passaranes.
Voilà, repolitiser le rock, c'est un projet qui nous parle ici. On va maintenant écouter RMFC, RMFC pour Rock Music Fan Club, avec un premier extrait que tu as choisi, Héloïse, ça s'appelle The Web. Rock Music Fan Club RMFC avec leur album Club Hit, et c'est Héloïse qui nous en parle.
Alors, Rock Music Fan Club est un groupe de post-punk basé en Australie, à Sydney plus précisément, créé par un enfant prodige du rock'n'roll, Buzz Clatworthy. Après deux EP, Eves, volume 1 et 2 en 2018 et un split en 2020, ils nous proposent leur premier vrai album, Club Hits, paru en novembre 2023, au terme de 5 années de travail, de patience et de discipline. 13 titres qui entendent se démarquer de la musique facile, à consommation immédiate et oubli instantané dont les majors aiment nous abreuver. Guidé par son obsession pour Wire, les morceaux mélodiques et les solos de guitare, Buzz Clatworthy nous livre ainsi un album qui endosse les sonorités post-punk de son époque, sans évoquer la dépression, le désespoir ou le dégoût, sous-tendu par une certaine obsession de la perfection. Un disque très mélodique, aux sonorités rondes et cuivrées, travaillé jusqu'à l'extrême et dans les moindres détails, qui sonne folk, punk, voire egg-punk. Des morceaux qui réservent la part belle à l'instrumental, construits à partir d'une overdose de guitare, patinés d'arrangements, dont certains au son quasi clavecin, trace un pont entre le rock de RFMC et la musique de chambre. D'ailleurs, Buzz Clatworthy écrit, interprète et enregistre lui-même toutes les productions du groupe dans sa chambre. Pour conclure, je dirais qu'il convient d'appréhender le nom du groupe au pied de la lettre. Club Hits est l'œuvre d'un fanatique de rock'n'roll et se présente un peu comme une déclaration d'amour au genre. Et c'est là peut-être également son travers. À vouloir trop chercher à atteindre la perfection, il en devient parfois monotone, voire endosse un certain côté premier de la classe, bien qu'il reste aussi riche que léché et en définitive passionnant.
Ouais, Encore un groupe qui vient de Sydney, et parce que les groupes, ça continue à arriver par paquet de 10 d'Australie, et c'est quand même quasi systématiquement des bons trucs, quoi. On n'est pas surpris à l'écoute de RMFC, parce que ça rappelle plein de choses qu'on a déjà entendues ces dernières années, sans pour autant les transcender, mais... Rock Music Fan Club, avec eux, on a des problèmes de riche, parce que c'est quand même excellent, quoi. C'est un son travaillé, façonné pour rester suffisamment crade et clair et en même temps aérien. Va gérer un savant équilibre, un peu comme si on avait mis de la lumière dans le garage cette fois-ci. Moi, ce rock presque assez acoustique et assez dansant, c'est pour moi la parfaite bande son pour un été où on tentera d'oublier que les fascistes ont mis un pied dans la porte. On écoutera ça en buvant beaucoup et en dansant un peu. D'ailleurs, vous voulez pas qu'on fasse ça ce soir? On se bourre la gueule et on danse, non, Cédric?
J'avais écrit à peu près la même phrase pour terminer. Moi, je parlais de nazis en charentaise, mais c'était à peu près l'idée, quoi. Donc oui, cet album, bah, pas de doute, hein, dès les premières notes, on sait qu'on est en Australie, hein, le côté punk, psyché, nonchalant, à la Vintage Crop, hein, qui est sur le même label, qui est l'excellent label Antifat Records, qui rejoint aussi certains albums de King Gizzard et de Lizard Wizard. Donc, d'une certaine manière, rien de bien original, si on veut, ça casse pas trois pattes à un kangourou. Mais si on aime ce genre, comme moi, je trouve qu'on est servi et très très bien servi avec cet album. Contrairement aux deux premiers albums qu'on a chroniqués dans cette émission, il y a moins de variations entre les titres, hein, des jeunes aussi no look, hein, traditionnels en Australie. Mais tout ça fonctionne, ça reste en tête sans se prendre la tête, quoi, en gros. Ce nouvel album, il s'éloigne quand même des deux premiers hippies du groupe, hein, qui étaient beaucoup plus avec punk, pour le coup, plus radicaux, plus sales, pour se diriger vers des sonorités plus dansantes, plus lumineuses. Et j'ai noté que le site Merseyside.fr, dans sa petite chronique de l'album, le décrivait ainsi: c'est du tatapoum dépouillé. Alors là, ça, je l'ai pris pour un hommage à cette émission. Donc, très bel album pour moi.
Arnaud, même enthousiasme?
Totalement. Je ronchonne pas pour le coup. J'écoute cet album depuis le mois de décembre. Moi, j'avais découvert sur un blog d'un mec sur internet, et il tourne en numérique. Je l'ai pas acheté en vinyle depuis vraiment plusieurs mois, et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est tellement une bouffée d'air actuelle. Et contrairement aux deux albums précédents et à d'autres albums qu'on peut chroniquer souvent avec des ambiances plombées un peu lourdes, pas forcément ce que j'ai envie d'écouter là ce soir et les prochaines semaines. C'est un album ultra réjouissant, mélodique, tu l'as dit. Je crois que c'est vraiment, enfin vous l'avez tous dit, le terme qui qualifie toutes les compos. Et je suis exactement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a quand même une monotonie un petit peu dans l'album, parce qu'il y a beaucoup de pistes, pardon, qui se ressemblent. C'est la nuance qui fait la différence des morceaux, mais elle reste vraiment tout en tête. Le marqueur vraiment de toutes ces pistes, c'est la mélodie. Moi, j'ai tapé du pied dès la première écoute du premier morceau, le morceau qu'on va écouter juste après, c'est The Trap. C'est une bombe. Mention spéciale pour un autre morceau que j'ai adoré, Armless Activity. Bref, c'est une bouffée d'air qui m'a fait du bien en écoutant et en préparant l'émission, parce que ça faisait quand même quelques semaines que je l'avais pas écouté. Et conseil de l'écouter peut-être ce soir encore plus que d'habitude.
Mathieu, même son de cloche.
Alors moi, j'ai bien aimé, mais je suis sans doute moins enthousiaste que vous. Alors effectivement, c'est australien. Moi, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est quand même seul, qui fait ça, et je le trouve prolifique, comme peut l'être par exemple un groupe comme Long Hours, qui est aussi le projet d'un mec tout seul. Je trouve ça assez impressionnant. Alors évidemment, partant du postulat qu'il est seul, c'est difficile à imaginer en version live. En tout cas, en studio, je trouve ça très inventif. Et si c'est pas hyper rythmé ni hyper énergique, c'est quand même très bien fait. Ça donne pas envie de passer à autre chose, et c'est à mon avis l'essentiel.
Et ben donc, retour à l'essentiel, on écoute un deuxième extrait de RMFC avec The Trap, comme on vous l'a annoncé. « Et ben voilà, c'était Rock Music Fan Club avec un extrait de leur dernier album Club Hits. On est toujours sur l'émission Tata Poum sur Cause Commune et on va écouter le dernier album au programme de cette émission. C'est le Prince Harry avec un nouvel album qui s'appelle Long Way Down, et Arnaud nous a sélectionné un premier extrait qui s'appelle Le Hachoir de Judas. C'était Prince Harry, venu de Liège, et c'est Arnaud qui nous en parle.
Ouais, donc c'est un trio qui est devenu duo, je vais le raconter pendant la chronique, qui est originaire donc, de Liège, tu l'as dit, formé en 2006 par Snoon et Saint-Lio. C'est un pseudo, l'autre pseudo c'est Béton Mortel, intéressant. Il s'agit là de leur quatrième long format, après une foultitude de hippies et de splits avec d'autres formations. Il y a une sorte de stabilité quand même dans cette formation, notamment au niveau des pochettes qui sont toutes dessinées par le génial Elzo Dirt, on en a beaucoup parlé. Label parisien également, Tinel Ménopause, qui sort leur compo depuis pas mal de temps, depuis 2012, depuis l'album It's Getting Worse. Et pourtant, depuis l'album Synthetic Love, la formation a changé, donc ils sont devenus un duo, le batteur est parti. Forcément, évolution assez notable dans leur compo. Au départ, formation assez classique de punk, synth-punk, parce qu'il y a un clavier qui était déjà présent. Tendance rockabilly, et puis progressivement, les claviers vont prendre beaucoup plus de place. Donc jusqu'en 2017, départ du batteur. Il y a deux albums ensuite, rythmique très rapide, duo guitare-clavier, mes compos vraiment marqués punk pour le coup. Et on arrive donc à ce dernier album après 5 ans d'absence, pochette toujours d'Elzo Dirt. Faut aller la voir parce que c'est radicalement différent de, des styles qu'il peut proposer pour tous les groupes. On a quand même un marqueur graphique très très reconnaissable d'Elzo Dirt. Là, on est plutôt sur un style pop plutôt que, qu'Indus. Un personnage qui gobe une pils. Et donc, ça, dès la pochette, ça s'annonce dansant. Et la muse confirme à l'écoute des premières notes de l'album. Des notes de clavier très lourdes, tendance call, wave, indus, qui ont dû en déstabiliser bon nombre, qui s'attendaient peut-être à des notes plus punk. On pense assez vite, moi j'ai pensé assez vite à Voxlow, qui est aussi signé sur Born Bad, Braco aussi, on n'en a pas parlé, mais on avait plusieurs à avoir écouté l'album. Même des groupes américains, Indus, Nine Inch Nails, ça m'a fait penser sur quelques titres. Faut attendre le troisième morceau pour retrouver des sonorités punk auxquelles ils nous avaient habitués. C'est qu'une parenthèse parce que l'électro revient très vite et on sent qu'elle va marquer le pas sur l'album. Les guitares sont présentes, mais on est vraiment davantage dans le post que dans le punk. Moi, c'est un pas de côté que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas le groupe. Cédric en avait parlé à plusieurs reprises dans plein d'émissions. Donc j'avais quand même écouté un peu avant et j'ai été assez surpris à l'écoute de cet album. Les compos sont quand même très différentes des deux précédents et même encore plus de leur début. Clairement une évolution pour quelqu'un qui s'attend à écouter du punk. J'entends dire bientôt là que vous allez dire beaucoup de bien du morceau Le Hachoir de Judas. Clairement, il y a des compos de techno qui sont quasiment collés sur ce morceau. Moi, je pense à Arnaud Robotini ou The Hacker qui font de la techno industrielle. Et donc, si on en arrive à aujourd'hui, à ce jour du 7 juillet, à dire que eh ben la techno c'est génial, on aura vraiment avancé.
Héloïse.
Alors, enfin, tu parles de punk, Arnaud, mais pour moi, cet album est au punk ce que la Macronie est à la gauche, c'est-à-dire assurément pas grand-chose. Donc, c'est avant tout un disque à la rythmique, certes soutenue, mais aux sonorités électro, patinées d'industriel et drôle en pop, en mode revival années 80, dark wave. En bref, de la musique robotique qui frise parfois avec la version dark de celle de Super Mario, davantage prédisposée à servir de bande-son au Fuse, temple de la techno bruxelloise qu'à un pogo. La pochette est d'ailleurs explicite sur ce point, celle-ci représentant de manière assez subtile, il faut le concéder, une bouche grande ouverte sur un cachet d'ecstasy positionné sur une langue. Et peut-être est-ce là grossièrement suggéré l'une des clés de compréhension de ce disque, destiné à être écouté moins dans le décorum froid et feutré d'un appartement que dans celui d'un nightclub, au milieu d'une foule dodelinant de la tête aux pupilles dilatées.
Mathieu.
Alors, vous attendez est-ce que j'aille dans le sens d'Arnaud et que je m'extasie devant la techno? rien que de poser la question, c'est donner la moitié de la réponse. En fait, c'est un groupe que je connais depuis longtemps et qui a toujours été un poil trop synthétique pour que j'y adhère à 100%, surtout en concert. Je dois avouer qu'il y a quelques rapprochements qu'on peut faire, par exemple, avec un groupe qui s'appelle Règlement. Je peux me dire que c'est l'amorce du début d'une initiation, d'un travail sur mes phobies vis-à-vis des sonorités synthétiques. Mais il va quand même falloir pour l'instant que je prenne encore sur moi parce que là, le hachoir, ça me coupe tous mes effets.
Ouais. Est-ce que sans guitare, la fête est plus folle? C'est ça la vraie question. Dès le début, vous l'avez dit, hein, c'est il y a une bouche qui est quelque part qui est une manière de réinterpréter la bouche logo des Rolling Stones. Et cette fois-ci, elle est en train de gober un acide, donc ça annonce le programme clairement. Vous allez écouter de la musique de drogués. Et donc que font les drogués? Ils font de l'électropunk qui lorgne cette fois-ci un peu plus du côté de l'électropop. C'est d'ailleurs pas ce que je préfère comme titre parce que par moment c'est un peu orchestral manœuvre in the fritry. Je préfère quand ça devient un peu plus électro, déglingo, bruyant, crade et moqueur. Après il y a d'inévitables moments d'ennui vu que c'est de l'électro. C'est quand même une musique qui repose beaucoup sur le fait qu'à un moment donné on va s'ennuyer. Voilà, moi je trouve que chaque album du Prince Harry, c'est un peu, c'est une proposition à écouter avec attention, et on n'y retrouve ou pas des filiations avec les mouvements punk, etc. Mais c'est jamais totalement éloigné. Moi je trouve que pour de la musique sans guitare électrique, c'est vraiment bien. Guillaume.
Bah oui, c'est un peu ça aussi mon avis, car en fait je vais revenir peut-être sur la programmation de Totapoum, hein, qui a eu le nom de surprendre ces derniers temps, car après la scrimo de Frey Body lors de notre dernière émission, voici un groupe qui s'aligne sur un créneau tout aussi original, mais lui aussi avec une vraie assise stylistique, j'ai nommé l'EBM, l'Electronic Body Music, se sont inventés au début des années 80, qui mélangent musique industrielle et sandpunk avec des groupes pionniers comme DAF ou Die Krupps. L'album de Prince Harry s'inscrit pleinement dans cette filiation, tant par le rigorisme de ses compos, allié à la martialité de sa rythmique. La binarité de la boîte à rythme et la répétitivité des boucles des synthés forment la structure centrale des morceaux. C'est un son électro très dur, mais qui n'est pas agressif, qui domine l'album, très vintage dans son essence, minimaliste et primitive. Un régal pour certains, pour les amateurs de ce son ardu et intransigeant, un enfer pour Marion et Bibi, le fameux couple bobo-punk des quartiers branchouilles du 18e. Car c'est l'absence de compromis qui donne sa valeur à leur musique, qui peut...
Vas-y.
Qui peut... Pardon. Car c'est l'absence de compromis qui donne sa valeur à leur musique, qui peut tendre jusqu'à la techno. Ce que confirme Dig Deep, et plus encore le Hachoir de Judas, meilleur morceau de l'album à mon goût. Pour autant, la radicalité ne veut pas dire intransigeance. Le Prince Harry conserve par beaucoup d'aspects des formes mélodiques sur plusieurs de leurs morceaux. Le mot pop qu'ils emploient eux-mêmes dans leur description Bandcamp se laisse entendre à maints endroits, A Long Way From The Top notamment. À mes oreilles, c'est cependant là où ils sont les moins bons, et nuance mon jugement d'un disque que j'ai malgré tout apprécié.
Eh bien, on écoute un dernier extrait du Prince Harry avec Nice and Kind.
Approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, c'était Tata Poum épisode 49 avec ce soir les Talking Heads de la critique rock avec Mathieu, évidemment, Guillaume, Héloïse et Cédric et Arnaud aussi. Et puis on retrouvait le couple Bobo Punk derrière la vitre avec Marion et Bibi. Bon courage pour ce qu'il vous reste à subir de dimanche soir et de ses conséquences. Ciao.